Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Suspense à Bruxelles. Les dirigeants européens cherchent toujours ce soir un compromis pour la présidence de la Commission européenne. Le sujet divise la France et l'Allemagne. Les explications d'Angélique Bouin dans un instant. En France, la Commission des lois de l'Assemblée adopte le texte contre la haine en ligne. Les plateformes type Facebook ou Twitter auront 24 heures pour retirer des contenus haineux. Projet contesté par la Quadrature du Net. Arthur Messot, juriste de l'association, est l'invité de ce journal. Y aura-t-il un nouveau président ou une nouvelle présidente de la Commission européenne ce soir? Rien n'est moins sûr. Les dirigeants européens réunis à Bruxelles n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un nom. En toile de fond, il y a les divergences franco-allemandes. Emmanuel Macron ne veut pas du candidat d'Angela Merkel, le conservateur bavarois Manfred Weber. La chancelière allemande, officiellement du moins, continue à le soutenir. Nous sommes en direct de Bruxelles avec Angélique Bouin. Bonsoir.
Bonsoir.
Angélique, les dirigeants européens viennent de passer à table pour le dîner et ils cherchent un consensus pour la présidence de la Commission.
Oui, l'élection d'un pape serait plus facile à plaisanter à son arrivée aujourd'hui le dirigeant irlandais Leo Varadkar. Et c'est vrai que l'équation reste très compliquée. Paris, par exemple, pensait avoir gagné une manche en milieu de journée quand on a appris que deux familles politiques du Parlement, les socialistes et les centristes, ne voteraient pas pour l'allemand Manfred Weber. Pour ce poste, rappelons que le successeur de Jean-Claude Juncker doit obtenir 21 voix sur 28 au Conseil, qui réunit les dirigeants de l'Union, et le vote de la moitié des députés du Parlement. Pour certains, Weber était donc hors jeu. Mais on a ensuite appris que le PPE, la famille de la droite européenne, continuait de soutenir sa candidature, tout comme la chancelière allemande. En public, en tout cas, Manfred Weber n'est pas mort. J'ai déjeuné avec lui, a osé tout à l'heure le président du Parlement, l'Italien Antonio Tajani, qui est de sa famille politique. Le climat est donc un peu tendu et cela sent l'impasse. Les échanges en tête-à-tête entre les différents chefs d'État et de gouvernement n'ont pas cessé de la journée. Ce soir encore, entre deux sessions de travail collectives et ce dîner qui a pris un retard considérable. Alors, arriveront-ils à se mettre d'accord sur des noms ce soir ou cette nuit? C'est peu probable selon des sources européennes, mais on n'est jamais ici à l'abri de surprises.
Angélique Bouin en direct de Bruxelles, merci. En revanche, les 28 dirigeants européens ont décidé à l'unanimité de prolonger de 6 mois les sanctions économiques imposées à la Russie dans la crise ukrainienne. L'UE constate l'absence de progrès de la part de Moscou dans la mise en œuvre des accords de Minsk destinés à faire cesser les combats dans l'est de l'Ukraine. Au Royaume-Uni, ils ne sont plus que deux ce soir à briguer la succession de la première ministre Theresa May. Boris Johnson, l'ancien maire de Londres, sera opposé à Jeremy Hunt, le patron du Foreign Office. Les deux hommes ont été désignés ce soir à l'issue d'un nouveau vote des députés conservateurs. Marina Daras nous appelle de Londres.
C'est l'actuel ministre des Affaires étrangères, Jeremy Hunt, qui affrontera l'ancien ministre des Affaires étrangères, Boris Johnson. Avec 77 voix, il bat de justesse le ministre de l'Environnement, Michael Gove. Jeremy Hunt et Boris Johnson se retrouvent donc au coude à coude pour prendre le poste de Premier ministre. Depuis le début des votes éliminatoires, la semaine dernière, il était certain que Boris Johnson finirait en finale. Il recueille d'ailleurs plus de la moitié des votes des 313 députés conservateurs et les bookmakers lui donnent désormais plus de 92% de chance de devenir le prochain Premier ministre du Royaume-Uni. La grande question était de savoir qui allait bien pouvoir lui faire de l'ombre. Bien que loin derrière Johnson, Jeremy Hunt était le deuxième candidat à recevoir le plus de soutien de la part des députés. Son expérience d'entrepreneur et de businessman rassure un parti qui a toujours été orienté sur le commerce. Reste à savoir si cette expérience sera assez pour les 160 000 membres du Parti conservateur qui auront quelques semaines pour choisir entre lui et le très populaire Boris Johnson.
Et en attendant, Theresa May gère les affaires courantes à la tête du gouvernement britannique. Son successeur devrait prendre ses fonctions à la fin juillet, 3 mois avant la nouvelle date du Brexit, le 31 octobre prochain. C'est un nouvel incident qui attise un peu plus encore la tension entre Washington et Téhéran. Les Iraniens ont abattu aujourd'hui un drone américain à proximité du détroit d'Ormuz. Les États-Unis dénoncent une agression délibérée. Ils annoncent l'envoi d'un millier de soldats supplémentaires dans la région. Et depuis, la Maison Blanche, Donald Trump agite à nouveau le spectre d'une intervention militaire contre l'Iran. Grégory Phillips nous appelle de Washington.
Alors que Donald Trump accueille dans le bureau ovale le Premier ministre canadien Justin Trudeau, un journaliste demande au président américain « Prévoyez-vous de frapper l'Iran ?» Réponse de Trump « Vous le saurez bientôt ». Évidemment, le locataire de la Maison Blanche est un habitué des déclarations va-t-en-guerre et qui ne sont pas toujours suivies des faits, mais dans le ton en tout cas, il y a clairement le choix de l'escalade plutôt que de la désescalade. Un peu plus tôt, Donald Trump avait tweeté « L'Iran a fait une énorme erreur », a écrit le président américain sur le réseau social, avant d'entrer en réunion de crise avec son chef de la diplomatie, Mike Pompeo, et son conseiller à la sécurité nationale, John Bolton, qui l'envoie d'ailleurs en Israël pour parler sécurité régionale. Pour les Américains, en tout cas, cela ne fait aucun doute. Leur drone a bien été abattu dans l'espace aérien international et pas au-dessus du territoire de la République islamique, comme l'indique Téhéran, à 34 km des côtes iraniennes, affirme un général au Pentagone.
Grégory Phillips, correspondant aux États-Unis. Deux jours après une grève massivement suivie à Radio France, la présidente Sybille Veil maintient en l'état son projet stratégique. Il faut trouver 60 millions d'économies d'ici 2022 et cela passe par un plan de départ volontaire entre 270 et 390 suppressions de postes. Le projet prévoit aussi de supprimer entre 7 et 12 jours de congés. Sybille Veil a répondu aujourd'hui aux salariés de Radio France et elle peut compter sur le soutien sans faille du gouvernement, Maxime Tellier.
Oui, la grève massive des salariés mardi n'a pas fait bouger le discours du gouvernement ni de la direction. Ce matin, Franck Riester, le ministre de la Culture et ministre de tutelle de Radio France, l'a rappelé, il était sur France Inter.
Aujourd'hui, on estime que les moyens de l'audiovisuel public sont très importants et qu'ils pourraient être beaucoup plus encore efficaces qu'ils ne le sont aujourd'hui en termes de puissance, en termes de présence pour nos compatriotes, si on était encore mieux organisé.
Franck Riester en a profité pour renouveler sa confiance à la présidente de Radio France, qui ne ménage pas ses efforts pour défendre son plan malgré l'impopularité des mesures. Sybille Veil va à la rencontre du personnel, comme ce midi, exemple avec cet échange animé avec un salarié.
Je pense que les salariés de cette maison ne sont pas contre le changement, ne sont pas contre la modernité. Personne ne va vous dire « Ah ben non, dans 10 ans, on fera moins de numérique qu'aujourd'hui ». Mais à un moment donné, comment va-t-on faire mieux avec moins de moyens dans un contexte de paupérisation de l'audiovisuel public avec une dotation de l'État en baisse ?
Et voici ce que répond Sybille Veil.
Il y a beaucoup d'entreprises en France qui font des plans de départ beaucoup plus importants que celui qu'on fait là. Et pourtant, il faut que dans le même temps, il s'adapte à l'évolution du métier. Il faut produire des articles pour le numérique. Il faut faire d'autres choses en plus. Ça concerne tous les médias. On n'est pas le seul.
Et les syndicats, évidemment, contestent ce diagnostic. Pour l'instant, ils sont unis en intersyndical. Lionel Thompson de la CGT, c'est le premier syndicat à Radio France.
En fait, la réaction de Sybille Veil, c'est de dire « La grève a été forte, on vous a entendu, on accélère ». Donc ça ne règle absolument rien et elle n'a pas, contrairement à ce qu'elle dit, entendu le message, le coup de semonce qui était pourtant très fort.
Des syndicats qui refusent même de négocier le plan de la direction qu'ils rencontrent à la fin du mois. Si rien ne change, on se dirige donc tout droit vers un nouveau conflit social à la rentrée de septembre.
Maxime Tellier, merci. La commission des lois de l'Assemblée a adopté hier la proposition de loi contre la haine en ligne. Un texte porté par la députée LREM Laetitia Avia qui vise à supprimer les contenus haineux sur Internet. Concrètement, les opérateurs, à commencer par les plateformes type Facebook, Twitter ou YouTube, auront 24 heures pour retirer ces contenus. Il s'agit notamment de l'incitation à la haine raciale ou bien de l'apologie du terrorisme. Mais ce projet de loi est loin de faire l'unanimité. On en parle avec l'invité de ce journal, Arthur Messot, juriste à la Quadrature du Net, une association mobilisée pour la liberté sur Internet. Bonsoir.
Bonsoir.
Arthur Messot, je le disais, au cœur de la loi contre la haine en ligne, il y a ce délai de 24 heures pour retirer les contenus jugés litigieux. Vous contestez ce délai de 24 heures ?
D'abord, il faut dénoncer son inutilité. Ce délai de 24 heures, il sera imposé seulement aux très grandes plateformes, a priori, comme Facebook, Twitter, YouTube, et pas tout le reste du web. Et aujourd'hui, Facebook ou YouTube emploient déjà des milliers de personnes, dans des conditions assez terribles d'ailleurs, pour retirer le plus vite possible les contenus, et on ne comprend pas quel est le besoin qu'ils aillent plus vite. Ils font déjà beaucoup de retraits en 24 heures, et aujourd'hui, on a l'impression d'avoir une loi qui vient faire une proposition inutile, parce qu'en fait, il vient exiger des choses qui sont déjà là. Donc, en fait, tout le reste de la loi, juste pas ce délai, c'est vraiment de la posture politique très, très grave, hein, pour faire croire que le gouvernement agit pour nous protéger sur Internet, alors qu'en fait, pas du tout. Le risque, c'est que derrière cette inutilité, viennent se glisser, en fait, des vraies ouvertures de nouveaux pouvoirs pour la police. Et la police, depuis plusieurs années en France, a de plus en plus de pouvoirs pour pouvoir censurer Internet sans l'autorisation du juge. Et là, on voit apparaître encore une multiplication de ces cas-ci.
Pour vous, c'est le fait que l'on ne recourt pas à un juge qui pose problème ?
Bien sûr, on a vu, par exemple, en janvier dernier, il y a eu une affaire qui a fait un peu de bruit. C'est la police qui a contacté Google pour censurer une caricature de Macron. Macron était caricaturé en Pinochet, et la police, ni une ni deux, dans la journée, a fait un signalement enregistré en tant qu'insulte et discrimination raciste, alors que c'est juste une caricature de Macron qui n'avait rien de raciste. Et là, c'est ce qu'on voit, c'est que la police veut abuser de ses pouvoirs, soi-disant de lutte contre le racisme, en fait, pour lutter contre ses adversaires politiques.
Donc, selon vous, il faut l'intervention de l'autorité judiciaire pour statuer sur les contenus litigieux en ligne.
Bien sûr, évidemment, c'est le seul contre-pouvoir raisonnable en l'état pour éviter le dévoiement de la loi par la police à des fins de censure politique. Ça, la police l'a fait, on a plusieurs exemples réguliers, et il n'y a que le juge qui peut être une garantie à peu près raisonnable.
Oui, mais on peut aussi considérer qu'il faut agir vite pour éviter que ces contenus haineux se propagent.
Alors c'est vrai, il faut agir vite, mais en fait, il y a déjà, dans la pratique, les problèmes qui sont posés ne sont pas ceux résolus par la loi. Par exemple, si la question c'est est-ce qu'il faut que Facebook censure plus vite, ça, Facebook le fait déjà, censure très vite. Par contre, il y a un vrai problème qui n'est absolument pas traité par la loi, c'est la responsabilité du modèle économique de Facebook, de YouTube, de Twitter, qui, pour nous faire rester le plus longtemps, pour nous faire buzzer le plus, pour mieux vendre leur publicité, vont en fait organiser la culture du buzz ou l'économie de l'attention, qui vont favoriser les conflits, les propos anxiogènes. Sur Twitter, par exemple, c'est impossible de débattre, tellement les messages sont courts. Par contre, les messages virulents vont beaucoup plus facilement être diffusés sur YouTube. Si vous regardez les vidéos à droite qui sont recommandées, en fait, l'expérience montre que c'est plutôt des vidéos conflictuelles, des vidéos au spectre politique les plus extrêmes, ou des vidéos sur la Terre plate, des choses qui, en fait, sidèrent le public, fait qu'on reste plus longtemps sur la vidéo. Et toutes les choses plus subtiles, tous les contenus et les messages plus subtils, d'entre elles, d'écoute, sont en fait censurés par enterrement sur ces plateformes qui ne mettent en avant que les choses les plus simples et souvent les plus violentes. Ce problème-là n'est absolument pas traité par la loi. Le problème de la responsabilité du modèle économique des géants, qui aujourd'hui ont réussi à aspirer la plupart des utilisateurs, ça, la loi ne fait rien pour ça, parce que ça s'attaquait aux géants du web. Ça fait trop peur au gouvernement aujourd'hui.
Oui, mais la loi n'est pas là pour sanctionner, contrôler la culture du buzz.
Ah ben, elle pourrait le faire. Si elle voulait faire quelque chose d'utile, ça serait ça. En fait, cette culture du buzz, elle n'est pas du tout arrivée naturellement telle qu'on la voit aujourd'hui. Les buzz, ils sont entretenus par des modèles économiques parce que ça sert l'intérêt des vendeurs de publicité que sont Facebook, YouTube et Twitter. Et si vous vous souvenez avant comment était Internet, avant ces grandes plateformes, il y avait des logiques de buzz, mais qui étaient beaucoup moins entretenues, et surtout qui ne venaient pas favoriser un type de contenu très particulier. Par exemple, sur Facebook, c'est les vidéos les plus courtes qui vont être mises en avant. Sur Twitter, de toute façon, vous êtes obligé de faire des vidéos courtes. Et ça ne permet pas de faire buzzer tout et n'importe quoi. Ça va surtout faire buzzer les conflits, les invectives. Et ça, la loi peut l'encadrer, précisément. C'est ce qu'elle devrait faire. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que la loi doit permettre aux individus de partir de ces plateformes, en forçant ces plateformes à devenir interopérables. Donc c'est un terme technique qui veut dire qu'on peut partir de Facebook pour aller sur une alternative, tout en pouvant continuer, depuis notre nouvelle plateforme, à communiquer avec nos amis qui sont restés sur Facebook. Ça, c'est des choses très simples quand on pense en matière de mail. Par exemple, si aujourd'hui vous partez de Gmail pour aller sur la Poste, vous pourrez continuer, depuis la Poste, à parler avec vos amis qui sont restés sur Gmail. C'est tout à fait normal. Nous, on dit qu'il faut imposer ça aux grandes plateformes, aux grands réseaux sociaux, parce que c'est la seule solution crédible à court terme pour nous protéger, pour protéger les victimes de la violence intrinsèque à leur modèle économique.
Arthur Romesso, juriste à la Quadrature du Net, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. Le temps demain, instable et orageux sur le sud-ouest, le massif central et les Alpes. Des orages également sur le centre-est jusqu'au sud de l'Alsace. Ailleurs, le ciel sera plus calme et souvent ensoleillé. Température minimale de 8 à 20 degrés du nord-ouest à la Méditerranée. Les maximales seront comprises entre 17 et 30 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Brice Garcia. 22h15 sur France Culture, vous retrouvez Frédéric Worms pour Matière à penser.